Chers collègues, bonjour. Bienvenue au palais de São Bento, notre parlement, qui est un édifice très ancien, avec une longue histoire. Il n'est pas utilisé comme Sénat, parce qu'il n'y a qu'une seule chambre, mais cette salle est utilisée pour ces types de réunions, telles que celle d'aujourd'hui. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous avez apprécié votre dîner hier soir et j'espère que vous avez eu la possibilité de vous reposer.
Some of you spend the night to see the Oscars or the...
J'espère que vous avez aussi eu l'occasion de voir la cérémonie des Oscars ainsi que les élections italiennes.
And we don't know the official...
Et les résultats officiels jusqu'à maintenant ne sont pas encore disponibles concernant les élections italiennes. Il faut encore attendre un petit peu. Mais comme nous le savons, ces résultats sont très très importants. Donc ces résultats des élections italiennes telles qu'en Allemagne, en Espagne aussi, partout à travers l'Europe. Merci beaucoup pour votre présence. J'aimerais dire aussi que nous n'avons pas encore tous les membres présents parce que certains des membres de ce comité directeur n'ont pas pu venir à Lisbonne. Les membres des jeunes parlementaires n'ont pas pu venir, ainsi que Selma et Petra du bureau des parlementaires n'ont pas pu venir. Mais nous sommes ici et nous avons une matinée pour débattre de nombreux sujets. Alors, merci. Merci. Encore une fois, on va essayer maintenant d'entamer le travail. En ce qui concerne l'ordre du jour, est-ce qu'on peut considérer que l'ordre du jour est adopté? L'ordre du jour a été transmis à chacun des membres avant la réunion. Merci. Nous avons également le procès-verbal du dernier comité directeur, du comité directeur de l'an dernier à Porto, qui doit être adopté. Ils ont été transmis à chacun de vous également. Et je ne sais pas si vous l'avez reçu. Ce matin, 10. En fait, on n'a pas encore de remarques jusqu'à hier, donc on peut donc considérer que c'est adopté. Merci. Alors maintenant, on peut passer au point 4, le programme d'activité du groupe des 12+, pendant l'Assemblée générale à Genève. En ce qui concerne ce point, comme d'habitude, ce que l'on propose, c'est simple. C'est que notre première réunion aura lieu le 21, je pense. Je dois maintenant trouver l'information exacte. La réunion aura lieu vendredi avant le forum des femmes. Comme vous vous souvenez, lors de la dernière réunion à Saint-Pétersbourg, nous avons demandé aux participants de répondre si nous devions maintenir notre première réunion au même temps que le forum des parlementaires des femmes, du groupe des femmes, ou une journée avant. La grande majorité a répondu que c'est mieux d'avoir cette réunion une journée avant la réunion du Forum des femmes afin que les parlementaires, que les femmes, ne doivent pas choisir entre l'une ou l'autre des réunions et puissent participer aux deux. C'est pour cela que nous avons proposé cette date pour la première réunion. Évidemment, ce n'est pas simple parce que nous savons qu'à un certain point, il peut se produire qu'il y a lieu le comité exécutif également. C'est pour cela que j'ai parlé avec le secrétaire général Et j'ai essayé de savoir si une journée et demie sera suffisante pour le comité exécutif, parce que ils ont 2 jours pour le comité exécutif, une journée et demie. La question, c'était si ça suffisait ou qu'est-ce que vous en pensez. Et lors de la discussion, ils ont dit que d'habitude, c'est possible d'avoir une journée et demie et de terminer un petit peu après le déjeuner. Donc, si nous avons besoin, par exemple, de faire reculer le début de notre réunion de 3 heures à 4 heures de l'après-midi, c'est possible d'avoir cette compatibilité entre le comité exécutif et la réunion des 12+. Cela va dépendre de la manière dont ça va fonctionner au niveau du comité exécutif, mais à la fin de la première journée ou en milieu de matinée de la deuxième journée du comité exécutif, nous saurons et nous dirons à tous les participants si nous allons commencer à 15h ou à 16h, afin de nous permettre, de permettre aux collègues du comité exécutif d'être présents également à cette réunion. Est-ce que c'est clair? Robert.
Bien, parce qu'il y a les interprètes.
Ah oui, oui.
Je fais travailler les interprètes. Donc, je pense que c'est très clair. Et je crois, par expérience, pour avoir siégé très longtemps au comité exécutif, que la deuxième journée, on peut raccourcir. Sauf que je pense que cette fois-ci, on va avoir pas mal de débats, parce qu'il y a des points importants au comité exécutif. Donc, ça peut durer. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est... Est-ce qu'on est sûr d'avoir les interprètes après 6 heures pour les 12+? Il faudrait s'assurer peut-être de ça aussi.
Voilà. Des dates des réunions. Les dates des réunions, nous avons ici.
OK.
D'accord. Alors, nous allons essayer... de résoudre cette question liée à l'interprétation. Bien sûr, elle sera prise en charge parce que c'est important, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, première réunion, donc la journée avant la réunion des femmes, ensuite réunion à 15h ou 16h. Deuxième journée, nous commencerons le 26, 27 et 28. Demain, 28 mars. Est-ce que ça vous va? C'est comme d'habitude. Le premier aura lieu le 23. 23. Donc à 15h ou 16h. Le 26, 27, 28. À 8h le matin. Une heure magnifique. Merci. Question financière. Vous avez deux pages avec les comptes de 2017. Et vous trouverez, on a reçu de la part de nos collègues de la Belgique un solde, 86 000 euros. Et à la fin de l'année, nous avons une solde près de 92 000 euros. Cela a été possible... Également parce que notre premier comité ici à Lisbonne, eh bien tous les coûts ont été payés par le Parlement portugais. Il faut donc remercier nos secrétaires général, notre secrétaire général qui a décidé de couvrir tous les coûts. C'est pour cela que nous avons une meilleure position à la fin de l'année qu'au début de l'année. Nous reviendrons. Sur cette page, vous avez également les dépenses et une petite explication qui suit. J'ai vu aussi que Monaco n'a pas payé encore sa contribution pour 2017. Je pense que Monaco n'a pas de problème financier. Mais on va essayer de comprendre ce qui s'est produit avec Monaco. Et Margarita a dit qu'elle les a contactés à plusieurs reprises, mais sans succès, sans réponse. Donc nous ne savons pas à ce stade-ci ce qui se passe. On va essayer de parler directement avec nos collègues de Monaco à Genève pour savoir ce qui s'est passé. Nous avons aussi une petite différence avec Monténégro, mais je pense que on peut oublier ça parce que il s'agit de commissions concernant des taux de change, 4 euros, donc c'est dérisoire. Mais en ce qui concerne Monaco, c'est différent.
And they lost everything there.
Oui, peut-être, on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'on peut donc adopter les comptes? Merci. Merci. Maintenant, le point numéro 6. Azerbaïdjan. Alors, c'est un sujet dont on doit parler un petit peu et on doit faire une proposition lors de notre réunion à Genève. L'Azerbaïdjan a demandé à devenir membre du groupe 12+. Azerbaïdjan est le seul membre de l'UIP qui n'est pas membre d'aucune autre organisation ou groupe régional. Ils sont donc invités à devenir membres de EuroAsia, mais ils préfèrent devenir membres du groupe des 12+, et ils en ont fait la demande. Ils m'ont invité également à leur rendre visite et à établir des contacts avec les autorités de l'Azerbaïdjan. Donc, je m'y suis rendue avec Anna et je peux dire que je serai très claire avec vous tous. Ce que j'ai constaté, c'est qu'ils avaient fait des grands efforts envers la tolérance, en ce qui concerne la tolérance, et envers les pays occidentaux, on va dire. En ce qui concerne la liberté des religions, par exemple, et maintenant, chose faite, nous avons parlé avec tous les dirigeants des différentes religions, musulmans, catholiques, juifs, orthodoxes, ainsi que l'église orthodoxe russe, et tout le monde parle de la liberté de religion en Azerbaïdjan, les programmes culturels également. Les bibliothèques, l'internet, l'accès libre à internet, etc. L'accès à l'information est complètement libre, mais nous savons également que ils ont quand même une démocratie spéciale, on va dire. C'est ce que j'ai essayé. J'essaie de trouver les mots diplomatiques pour le dire. Et à plusieurs reprises, on doit réfléchir, on doit penser qu'est-ce qui est mieux. Est-ce qu'il est mieux d'avoir un pays tel que l'Azerbaïdjan à l'intérieur de notre groupe et d'essayer de partager nos valeurs et essayer de les impliquer dans nos valeurs et essayer d'améliorer la démocratie, l'état de droit, etc. dans leur pays? Ou est-ce qu'il est mieux de garder un pays tel que l'Azerbaïdjan hors de notre groupe? On ne sait pas s'ils décideront d'aller rejoindre le groupe EuroAsia. C'est notre décision. Évidemment, ils vont participer à notre réunion pour présenter leur candidature, pour se présenter. Et bien sûr, la parole est à vous en ce qui concerne cette question. Je crois que c'est important d'en discuter parce que c'est différent Ce n'est pas la même chose de faire cette réunion sans y avoir réfléchi au préalable ou alors d'en avoir discuté auparavant. Chris, vous avez demandé la parole. Merci. Il y a quelques années, on a eu la même question et nous avons eu une discussion à l'époque. Évidemment, ça relève de eux. Ils ont le droit de demander, mais c'est à nous de décider. Et la dernière fois, on a demandé au Conseil européen le rapport de la situation dans le pays. Et la raison principale est que on peut décider concernant les normes que nous voulons appliquer à nos pays membres. On ne peut pas faire la même chose lorsque l'on discute de l'organisation de l'UIP parce qu'il y a beaucoup d'autres pays et de groupes régionaux qui exercent une influence. Donc je pense que l'on doit faire la même chose. Et si il y a des progrès en ce qui concerne ce qu'on appelle la démocratie en Azerbaïdjan, on ne doit pas le refuser, mais je suis ouvert. Je crois qu'on doit obtenir davantage d'informations concernant le pays avant de dire oui ou non. Parce que en ce qui les concerne, s'ils ont la possibilité de suivre leur programme, c'est une chose. Mais de le faire en ayant une discussion avec une possibilité d'opposition, etc., c'est tout à fait différent. Donc, je crois que il est judicieux d'obtenir davantage d'informations. Je ne suis pas encore prêt pour dire oui ou non. Je dois en savoir davantage concernant ce pays et sa situation. Merci. Je peux dire que, évidemment, nous devons obtenir davantage d'informations au Conseil de l'Europe et on vous partagera cette information. Et on demandera aussi à l'UIP, au secrétariat général, si notre organisation a un rapport concernant la situation de pays tels que l'Azerbaïdjan et si c'est possible de nous envoyer ces informations. Pas concernant la situation en Azerbaïdjan, à savoir si pas des informations que l'on peut retrouver sur Google ou sur Wikipédia, mais concernant la situation politique. Parce qu'il s'agit de la population, la religion, bon, tout cela, merci beaucoup, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de réfléchir, et je vais partager quelque chose avec vous. On a des membres dans notre groupe, par exemple, on est inquiet concernant des personnes qui veulent se joindre à nous ou aussi concernant des membres qui sont déjà dans notre groupe. Qu'est-ce qui se passe en Turquie en ce moment? Est-ce que c'est mieux ou c'est pire que ce qui se passe en Azerbaïdjan? Et donc, est-ce qu'on va garder cela? Est-ce qu'on va demander maintenant à tout le monde, est-ce qu'on maintient la Turquie comme membre du groupe 12+? Il faut répondre à ça, pourquoi pas? Et peut-être si ce que nous avons fait au sein de l'Union européenne pendant 10, il y a 10, 15, 20 ans, essayer de dire à la Turquie qu'ils deviendront membres de l'Union européenne. Et après, ce n'est jamais arrivé, mais les négociations s'éternisent. Et ce qu'il y a maintenant, c'est une position pire. La position de la Turquie est pire maintenant qu'à l'époque. Et peut-être elle est pire que s'ils étaient devenus membres de l'Union européenne il y a 5 ans ou 10 ans. Parce que s'ils avaient rejoint l'Union européenne, ce serait plus difficile d'avoir la radicalisation ou beaucoup de situations, la peine de mort par exemple, ou de nombreuses situations qui se produisent en Turquie actuellement. Donc nous n'avons jamais dit ni oui ni non. Et maintenant, nous avons une situation qui est pire en Turquie que celle qu'il y avait il y a 10 ans. Donc, il faut réfléchir à cela également. Mais nous avons John du Royaume-Uni, Robert. On va essayer de donner la parole à tout le monde. John, c'est à votre tour. Monsieur le Président, j'ai aussi des préoccupations concernant cette proposition. Azerbaïdjan, d'après la plupart des observateurs internationaux indépendants, il y a beaucoup de corruption, ne respectent pas les droits de l'homme, la liberté de presse également est très limitée. Évidemment, ces critiques peuvent s'appliquer aussi à d'autres pays, mais la Turquie est déjà un membre de ce groupe. Et cela ne doit pas affecter notre décision quant à l'Azerbaïdjan. J'ai aussi une objection particulière et qui est d'ordre personnel. Moi, en tant que membre élu du Parlement, j'ai voyagé pour parler à d'autres représentants élus à Goma-Karabakh et je suis président et des membres élus. J'ai été placé sur la liste des personnes interdites et je ne peux pas visiter l'Azerbaïdjan simplement parce que j'ai établi un dialogue avec des représentants élus et j'aimerais faire état de cette situation et je crois que cela est inadmissible. On ne peut pas admettre un pays qui est prêt à bannir des membres élus simplement parce qu'ils ont entamé un dialogue avec d'autres membres élus dans leur pays. Merci beaucoup. Robert.
C'est un sujet délicat sur lequel, comme le disait Christer, nous sommes revenus à plusieurs reprises, car il y a eu déjà 2 demandes de l'Azerbaïdjan pour intégrer le groupe. La première demande a avorté très rapidement sur la base du Conseil de l'Europe qui avait sorti un rapport très catastrophique, disons, sur la situation en Azerbaïdjan, et donc on n'est pas allé très loin. La deuxième demande est survenue il y a quelques années. À l'époque, j'étais à la place de Duarte, et on a eu des rapports, d'un côté positif, de l'autre côté négatif, des améliorations, mais d'autre côté, des situations qui étaient inacceptables. Alors, j'ai demandé à l'Azerbaïdjan, à l'époque, de venir en audition devant le groupe des 12+. Ce qui a été fait, on avait fait une première audition très difficile. Il ne parlait ni anglais, ni français, ni il parlait azerbaïdjanais. Donc je leur ai dit, écoutez, on ne peut pas vous entendre, donc amenez un interprète. Alors ils ont amené un interprète qui avait du mal à s'exprimer lui-même en anglais, et donc on a eu beaucoup de mal à comprendre. Et la deuxième fois, on a eu la même chose avec un interprète qui était incapable de s'expliquer clairement, à tel point que j'ai dû moi expliquer ce qu'il voulait ou ce qu'il semblait vouloir dire. Mais c'était un moyen de passer à côté des questions-réponses en détournant la réponse de la réalité. Et j'avais l'impression que l'interprète était quelqu'un qui avait été payé pour faire la propagande de l'Azerbaïdjan, un truc comme ça. Bien. Ça s'est assez mal passé et j'ai même pas proposé au vote, d'ailleurs, autant que je me souvienne. J'ai dit, écoutez, c'est pas la peine de voter, est-ce que tout le monde est d'accord pour continuer? Il y avait unanimité pour ne pas continuer. Alors, maintenant, c'est une troisième position qui a évolué très certainement et on sait que ça a évolué dans les rapports internationaux. Mais Monsieur le Président, je crois qu'il va falloir éclaircir quand même les choses. Je pense qu'il serait bon, si vous en êtes d'accord, si tout le monde est d'accord, d'inviter les représentants de l'Azerbaïdjan à venir s'expliquer, et cette fois clairement, et de mettre sur la table tout ce qui ne va pas, tout ce que nous pensons qui ne va pas. L'exemple de notre ami britannique est clair. On ne pourra pas accepter tant que l'Azerbaïdjan ne sera pas revenu sur une décision qui nous paraît impossible à accepter. Je crois que ça me paraît assez clair. On ne peut pas avoir un membre du board interdit de se rendre en Azerbaïdjan en motif qu'il voulait rencontrer des gens de l'opposition. Nous sommes des démocrates dans le monde entier. Nous voulons avoir des contacts avec toute l'opposition, de droite, de gauche, du centre, extrême droite, extrême gauche, ça nous regarde, mais il faut laisser cette possibilité. On n'est pas obligé de partager les points de vue. Bon. Sur un autre plan, le cas de la Turquie est un bel exemple que le président a mis en avant. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. On a eu des décisions à prendre au board en ce qui concerne des gouvernements où il s'était passé quelque chose. Je pense à la Thaïlande, je pense à des pays d'Afrique où on a beaucoup hésité à exclure de l'UIP ou suspendre momentanément pour un certain moment de l'UIP des parlements parce qu'ils ne respectaient pas ce que nous appelons nous nos valeurs à respecter. On l'a fait pour quelques pays. Est-ce qu'on doit le faire pour la Turquie? Et le président a raison de poser la question. On peut être tenté de le faire en disant, mais non, on ne respecte pas nos valeurs, donc... Mais ça veut dire quoi? Exclure du groupe des 12+, ça voudrait dire que le groupe des 12+, prend position sur la Turquie à cause de ce qui se passe actuellement. Mais on va nous reprocher de ne pas prendre position sur certains pays où se passe la même chose dans le monde. Et on peut penser au Venezuela, on peut penser à où les parlements sont toujours membres de l'UIP. On a eu le problème de l'Égypte, le problème de la Thaïlande, on a toute une liste de pays où on pourrait avoir des questions à se poser et des décisions difficiles à prendre. Donc, la seule chose où je suis d'accord, c'est que le président a aussi raison, il vaut peut-être mieux l'avoir avec nous, la Turquie, pour essayer de voir comment on peut améliorer ce qui se passe, plutôt que de les suspendre du groupe, qui aurait des conséquences sur le reste de l'UIP. Donc c'est une situation de fait. Quant à l'Azerbaïdjan, c'est à nous de décider. Mais moi, je crois qu'il faudra interviewer les représentants de l'Azerbaïdjan en leur expliquant nos conditions d'acceptation dans le groupe et en particulier ce cas précis. Et là, je pense qu'il y a une solution facile. S'ils veulent rentrer dans le groupe, ils peuvent influer sur leur gouvernement ou sur la décision qui a été prise pour rectifier ce qui a été fait. Ça serait un geste, si vous voulez, un bon exemple de volonté de l'Azerbaïdjan de pouvoir être dans le... Alors maintenant, ils ne sont pas membres de notre groupe. Ils ne peuvent pas aller dans l'Eurasie parce qu'avec l'Albanie, l'Arménie, ils sont en conflit. Donc, s'ils se retrouvent avec l'Arménie, le groupe ne veut pas non plus. Donc, ils ont aussi des problèmes pour aller ailleurs. Alors, président, moi, je crois que... Enfin, c'est mon point de vue, mais je ne sais pas si c'est partagé. On doit faire respecter nos valeurs. On ne peut pas aller trop loin... Et je m'explique. Nous avons à l'UIP des parlements qui ne sont même pas élus, qui sont nommés. Je pense à l'Arabie Saoudite, par exemple. Je pense à pas mal d'endroits où on a des parlementaires qui ne sont pas vraiment considérés selon nos valeurs occidentales. Et alors on peut se poser la question sur beaucoup de choses comme ça. Donc il faut faire une balance entre les deux. Est-ce que les élections ont lieu normalement en Azerbaïdjan? Est-ce que le Parlement fonctionne normalement? Est-ce qu'il contrôle le gouvernement, plus ou moins? Est-ce que... Voilà, mais on a des questions à poser aux représentants de l'Azerbaïdjan. Ce serait une occasion de le faire à ce moment-là. Et en leur demandant de venir avec un interprète ou quelqu'un qui parle anglais correctement... ou français, moi je suis d'accord aussi. Mais je veux dire qu'on a besoin d'avoir... une conversation, un dialogue avec ces gens-là. Alors après, on décidera, le groupe des 12+ décidera. Voilà, président, ce que je voulais dire, c'est précision pour exprimer mon point de vue là-dessus. Merci.
Merci beaucoup. Margaret.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, étant nouvelle parmi nous, pour la première fois dans ce cercle, j'ai bien sûr regardé ce que dit notre règlement du groupe des 12+, et bien je constate la demande d'adhésion formelle, elle est faite, à mon avis elle est correcte, donc à nous de présenter les recommandations, comme ça vient d'être dit, recommandations de notre comité directeur au groupe des 12+. Je me fais du souci au sujet de l'intervention de notre collègue du Royaume-Uni. Je voudrais bien vous adresser la question suivante. Est-ce que cette exclusion vous frappe toujours ou quand c'était la dernière fois que vous avez été empêché d'entrer dans l'un des pays du Caucase? Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que Vous vous souvenez peut-être que la Suisse avait eu la présidence de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, OSCE, en 2014. Nous avions tenu une Assemblée parlementaire d'été en juillet 2014 à Bakou. J'y étais. À Bakou, tant que je me souvienne, en tout cas aussi avec la présidence suisse, on avait pu obtenir que, en définitive, toutes et tous les parlementaires qui étaient encore frappés d'une sanction avaient pu rentrer pour cette conférence. Mais peut-être qu'il y a une information différente à cette table. Il a été question du Conseil de l'Europe. Hier matin, ici à Lisbonne, j'ai encore lu beaucoup de choses sur ce qui s'est passé dans le contexte du Conseil de l'Europe. Je peux dire qu'en ce qui concerne l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, l'Azerbaïdjan, à mon avis, j'y suis depuis mars 2013. À l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Je préside cette année et l'année prochaine la délégation suisse. À mon observation, à ma connaissance, la délégation de l'Azerbaïdjan fonctionne normalement. En tout cas, j'ai pas pu constater des faits comme ils sont relatés du contexte du Conseil de l'Europe. Donc, en conclusion, moi, je suis très ouverte à les entendre. Il faut les entendre. À mon avis, je suis volontiers la recommandation et l'ouverture donnée par notre collègue Kirster et la proposition de Robert. Les invités questionnés, il y a des rapports sur les élections de l'OSCE. Je vais d'ailleurs moi-même aussi participer comme observatrice des élections présidentielles le 11 avril. Bien sûr, ça sera après, mais vous pouvez aller lire sur le site de l'OSCE tous les rapports précédents sur toutes les observations des élections. Elles sont critiques, bien sûr, elles contiennent beaucoup de critiques. Voilà, il faut rester critique, comme par rapport à tous les pays, y compris le mien, en ce qui concerne la transparence financière sur les campagnes financières. Voilà, donc je suis ouverte vraiment à ce qu'on recommande le dialogue et à ce qu'on décide après les avoir entendus. Merci.
Je pense que c'est un sujet très délicat et sensible, et je ne pense pas qu'on peut dire oui ou non comme ça. Je pense que on doit comprendre très très bien si ce pays se dirige vers la bonne direction. Et je ne pense pas qu'il suffise de les écouter simplement. J'aimerais que certains d'entre nous qui sont des experts de ce pays puissent énumérer les points critiques en ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie, etc. Et voir si la tendance vers ce qui sont nos valeurs, qui correspondent à nos valeurs, est-ce que ces tendances sont prises au sérieux par ce pays? Et je crois qu'on doit être strict en même temps, mais ouvert aussi à apprécier et à évaluer ces tendances. Et je pense qu'en parlant de la Turquie, c'est un bon exemple. En effet, parce que personnellement, j'ai suivi ce qui se passe en Turquie depuis le milieu des années 80. Et je pense savoir et connaître ce pays. Mais si, il y a quelques années, on m'a permis de visiter des personnes en prison. Eh bien, aujourd'hui, j'essaie de visiter nos collègues et on ne me le permet pas. Donc, cela veut dire que, en fait, on a eu tort de dire que la Turquie doit définitivement être hors de l'Union européenne ou du processus, parce que cela a isolé la Turquie autour des valeurs qui sont inacceptables. Et c'est en fait un équilibre assez délicat à garder, c'est-à-dire garder la porte suffisamment ouverte, mais pas trop. Si nous avons entamé ce processus de les écouter, mais il ne suffit pas de les écouter. Simplement, il faut essayer de maintenir un peu la porte ouverte. Une année ne suffit pas, mais essayer de leur faire sentir que on apprécie le fait qu'ils avancent dans la bonne direction. Par exemple, je me suis sentie assez mal à l'aise à Saint-Pétersbourg ou au Cambodge lorsqu'il y a eu le cas du Cambodge. Et ce qui est arrivé, c'est ce qu'on craignait. Ils ont expulsé des membres, des parlementaires, et ils ont pris des votes de ces parlementaires, des parlementaires qui appartenaient à des partis complaisantes. Donc, ouvrons la porte, mais avec prudence. Et le processus, le contrôle du processus, doit être très exigeant, mais en même temps encourageant. Parce que plus il s'approche de nos valeurs, mieux ce sera pour la population qui vit en Azerbaïdjan. Eh bien, depuis que nous avons eu donc ces normes dans ce groupe des membres qui sont censés être suivis par les membres, je crois qu'ils doivent suivre ces normes. Si nous avons des pays membres, et je n'ai pas peur de ce type de discussion, des pays tels que la Turquie, qui ont été dans des situations pires maintenant qu'à l'époque, où on les a acceptés, je peux discuter de leur légitimité en tant que membre s'ils ne suivent pas les règles. Mais je ne veux pas que nous prenions la Turquie comme exemple, comme mauvais exemple, et faire en sorte qu'il soit la norme pour notre organisation. Je crois que ce n'est pas la bonne direction à suivre. On ne peut pas prendre le pire exemple et dire, eh bien, puisqu'ils sont ici déjà, nous pouvons baisser les normes. Ce n'est pas ma vision des choses. Nous avons des normes plus élevées au sein de ce groupe que le groupe de l'UIP dans l'ensemble, et je crois que nous devons soutenir ces normes. Et si des membres ne suivent pas et ne respectent pas ces normes, nous aurons des discussions avec ceux-ci et on va même discuter leur légitimité au sein du groupe. Mais maintenant, nous parlons de pays qui n'est pas encore membre et qui, au moins, on devra avoir l'opportunité de leur dire non. On doit pouvoir dire non à un pays qui ne respecte pas nos normes lorsqu'ils ne sont pas encore membres. Merci.
Posez-vous. Chris, Président, on doit se demander qu'est-ce qui a changé entre 2010, 2012 et maintenant en Azerbaïdjan. Et si la situation est meilleure, est-ce qu'il nous pouvons démontrer que la situation est tellement différente, je suis pas sûr. Il y a une interrogation qui se passe au Parlement contre des parlementaires dont les conclusions doivent être terminées à la fin avril et même après notre assemblée à Genève. Donc ça n'aide pas si la c'est la mission d'Azerbaïdjan pour l'adhésion au groupe d'EF+ continue. Donc ils peuvent toujours se candidater, bien sûr, nous allons les entendre à Genève, rappelle les membres. peuvent décider s'ils veulent accepter ce risque d'une deuxième d'un deuxième refus. Peut-être pour répondre à Margaret, je peux clarifier. Je connais 5 membres du Parlement britannique qui sont dans la liste. Quand j'étais membre du Parlement britannique, le ministère des Affaires étrangères a dit que c'était pas qu'ils devaient retirer mon nom de la liste. La liste contient 450 noms. Il y inclut 4 membres du Parlement français, 3 membres du Parlement suisse actuels ou ex-membres. Donc c'est une liste très longue qui a des membres élus de presque tous les pays membres de notre groupe, et je pense que ça va contre le dialogue que cette organisation veut promouvoir, et qu'il faut que ces noms soient retirés de cette liste avant de les rencontrer. J'essaie de voir quelle peut être la conclusion de vos propos, et c'est pas facile. Parce que ce qu'on a dans nos statuts, c'est très clair. Le comité directeur devra examiner les demandes d'adhésion et faire des recommandations au groupe. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Étudier et faire une recommandation au plénière de notre groupe. Alors, moi, je sais pas exactement quelle est la recommandation qu'on peut faire après vous avoir entendu autour de cette table. Bon. On peut inviter un Azerbaïdjanais à venir faire une présentation à notre groupe. Ça, je pense qu'on accepte. Mais, et après, on peut faire toutes les questions, on peut leur faire toutes les questions qu'on veut, faire des questions, poser des questions aux collègues azerbaïdjanais. Ça, c'est facile. Mais, par exemple, on va décider à Genève, ou c'est mieux d'attendre les résultats de l'étude du Conseil d'Europe ça a publié en avril, et après prendre une décision en octobre. C'est une autre possibilité. On peut essayer de faire des questions, de poser des questions aux collègues Azeris, si possible, de poser des questions par écrit, et après attendre les réponses. Et on prépare notre propre rapport sur la situation en Azerbaïdjan. Donc, on va pas seulement décider sur les rapports d'autres organisations, mais sur base d'une organisation, d'un rapport du plus. On peut faire une compilation de toutes les réponses aux questions, et alors là, on aura un autre propre rapport sur la situation. Moi, personnellement, je préfère quelque chose comme ça. Parce que pourquoi la OIP, pourquoi les 12 plus doivent prendre une décision basée sur des rapports d'autres organisations? Pourquoi ne pas avoir faire notre propre étude sur le problème? On peut demander à des collègues du comité directeur, ou même pas membres du comité directeur, de préparer un rapport et de présenter ce rapport en octobre, et on prendra la décision en octobre. À mon avis, ce sera la meilleure façon de procéder. Bien sûr, tout le reste sera considéré. Ce que le collègue britannique a demandé, je pense que c'est important, c'est même essentiel pour nous aussi. Christa, moi ça va, mais est-ce qu'on a les ressources pour faire cette étude? Qui devra le faire, le préparer? Non, on n'a pas une organisation propre pour ça. Par exemple, ce sera le Parlement portugais qui doit prendre en charge ça. Parce que ça, c'est la question. Parce que j'ai parlé du Conseil d'Europe, parce qu'ils ont les ressources. Nous, on n'a pas normalement les ressources. Bon, on va voir. Mais nos collègues font des projets de résolution sur tout et n'importe quoi dans leur comité. Et nous, on n'a pas les capacités pour faire ces rapports. On fait des rapports ou des projets sur la paix, la sécurité, l'environnement, la santé, le terrorisme. Et nous sommes des politiciens. Et si on va à Genève, il y a des tas de papiers écrits par nos collègues. Et souvent, on sait qu'il y a deux co-rapporteurs, mais essentiellement, sont écrits par quelqu'un du 12 plus. Normalement, il y a un rapporteur d'Afrique ou quelqu'un du 12 plus, et nous savons comment ça marche. C'est toujours les mêmes qui rédigent les rapports, et les rapports sont présentés. Il y a des points d'urgence sur les Rohingyas, la Syrie, tout. Et il y a des textes, il y a des documents. Et c'est juste sur l'Azerbaïdjan qu'on n'arrive pas à produire un texte et voir qu'est-ce qui a changé, quel problème encore demeure à propos de la démocratie, les droits humains, etc. Bon, si l'on décide d'avoir un rapport, je pense qu'on peut, arriver à le faire. Robert, s'il vous plaît.
C'est une idée à creuser. C'est vrai qu'on peut faire établir un rapport. Alors, Chrysler a raison aussi, on n'a peut-être pas tous les éléments, mais je crois que si on fait un rapport UIP à destination des 12+, parce que c'est nous qui sommes concernés, ce n'est pas l'UIP qui est concerné. Ils sont dans l'UIP, ce n'est pas une adhésion à l'UIP, c'est une adhésion au groupe des 12+. C'est un peu différent. Mais à partir du moment où c'est le groupe des 12+, moi je trouve aussi tout à fait normal que le groupe des 12+ arrive à faire un rapport. Mais je pense que pour réaliser ce rapport, il faut tenir compte aussi des autres sources d'information et des autres rapports, le Conseil de l'Europe bien sûr, l'OSCE et autres organismes qui établissent des rapports et qui suivent de près ce qui se passe en Azerbaïdjan. Moi je crois qu'il y a aussi dans l'opinion publique une mauvaise vision de l'Azerbaïdjan. À tort, à raison certainement pour beaucoup de choses qui s'y passent, mais à tort pour certaines choses, où l'on confond les décisions du président et du gouvernement et les façons d'agir des deux et le Parlement. Je crois que, je ne dis pas que le Parlement est le meilleur du monde, loin de là ma pensée, mais est-ce que le gouvernement, les parlementaires, puisque nous voulons les parlementaires, a autant de fautes que l'exécutif? Je pense que dans la presse et ailleurs, et dans les commentaires qui sont faits, je pense que c'est surtout l'exécutif qui est contesté et qui est critiqué. On voit moins de critiques sur les parlementaires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on voit moins ça. Donc il serait peut-être intéressant, dans le rapport, de voir et de faire la différence entre les parlementaires, parce qu'il y a peut-être de bons parlementaires aussi dans le Parlement azerbaïdjanais. Il y a quelques mauvais peut-être aussi, mais comme dans tous les gouvernements, comme dans tous les parlements, pardon. Mais je crois qu'il faut peut-être, dans le rapport, tenir compte de ça aussi et tenir compte de tous les autres rapports disponibles pour nous-mêmes, y compris des rapports que l'on peut avoir à travers les ministères des Affaires étrangères des pays membres qui peuvent avoir aussi des informations et des rapports intéressants que l'on pourrait mettre dans ce rapport. Je pense qu'on pourrait avoir, parce que je pense que le ministère des Affaires étrangères de Grande-Bretagne ou de France ou d'Allemagne ou du Canada ont certainement des informations intéressantes en ce qui concerne l'Azerbaïdjan, et à nous aussi d'en tenir compte pour faire ce rapport. Je pense que c'est faisable. Et sur la base de ça, après, les groupes de 12 plus peuvent prendre une décision. Ce qui n'exclut pas une audition quand même. Moi, je pense qu'il serait quand même bon d'auditionner les parlementaires. Je veux bien d'auditionner les parlementaires pour les mettre devant les questions et de façon à ce qu'ils comprennent bien notre but et ce que nous voulons.
I think that we should.
Je crois qu'on doit les écouter à Genève, sans nécessairement prendre une décision à Genève, mais prendre le temps de préparer notre rapport, considérant aussi d'autres sources, y compris les sources de nos propres pays, parce que j'imagine qu'il est vrai que certains d'entre eux ne seront plus candidats, je ne serai plus là, mais plus on a recours à de sources, plus l'information sera complète et on pourra mieux faire une recommandation. Je crois que de donner une réponse à Genève, c'est trop tôt. Merci. Monsieur le Président, est-ce que l'Azerbaïdjan est le seul pays au sein de l'UIP qui n'a pas de foyer? Oui, c'est notre information. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va recevoir d'autres candidatures à rejoindre le groupe des 12+, d'après nos connaissances? Donc, il n'y aura pas d'autres pays qui vont sauter d'un groupe politique à un autre, par exemple? Non, d'accord. Donc, si... si cela est présenté par la délégation de l'Azerbaïdjan à Genève, à qui est-ce que leur cas sera soumis? À ce groupe ou à la plénière du groupe des 12+? Je pense qu'ils vont venir à la plénière du groupe des 12+ et que de nombreuses personnes vont leur poser des questions fondamentales. Par exemple, c'est le seul pays qui n'a pas base. Et ça doit être clarifié parce que ce ne sont pas tous les délégués qui le savent. Ils ne savent pas si une application, une telle candidature a été effectuée par un autre pays au cours des 25 dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres États similaires à... est-ce que d'autres pays ont posé leur candidature pour rejoindre le groupe des 12+, et comment est-ce qu'on a fait affaire à cette situation? Comment on a fait face à cette situation? L'Ukraine, par exemple, il y aura beaucoup d'avocats aussi dans la salle qui vont demander concernant... le fait que le processus est arbitraire. Je sais que moi-même, je poserai cette question. Sur quelle base est-ce que la décision est prise? Est-ce que c'est basé sur les preuves? Et quelles preuves pour décider? Et pour Robert et Pierre aussi ont mentionné, si on va... filtrer, si on veut, l'Azerbaïdjan, est-ce qu'on va aussi filtrer les membres déjà existants du groupe 12+? Est-ce qu'on va demander à la Turquie aussi de venir se joindre à la table et de passer par les mêmes questions? Je crois que nous n'avons pas le choix que d'aller très lentement. Je crois que l'Azerbaïdjan mérite une réponse parce que cette candidature traîne depuis plusieurs années déjà, mais j'aimerais bien qu'on retourne à nos parlements respectifs. Donnez-nous un papier sur la position. Qu'est-ce que vous pensez? Où se situe le gouvernement de l'Azerbaïdjan? Quelle est sa structure, son parlement? Quels sont les pièges? Et on peut donc rassembler ces informations pour prendre une décision éclairée. La dernière question que je voulais soulever, est-ce que c'est le groupe auquel appartient ou doit appartenir à l'Azerbaïdjan, ce groupe des 12+, ou est-ce qu'il ferait mieux de rejoindre un autre groupe? Si on prend par exemple la carte du monde, est-ce que c'est là où appartient à l'Azerbaïdjan, ou est-ce que l'Azerbaïdjan appartiendrait peut-être à un autre groupe, mais ne peut pas le rejoindre en raison de leur conflit avec l'Arménie? Est-ce que c'est un moyen de faire le tour, de contourner le problème? Je ne sais pas. C'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse. Mais je crois que ce sont plusieurs questions qui devront être posées lors de la plénière à Genève. Merci. Nous savons que notre groupe est très spécial avec Israël, avec l'Australie, avec le Canada, avec la Nouvelle-Zélande et aussi avec des pays européens. Donc, nous ne sommes pas un groupe géographique tel que Afrique, Gros Lac, parce que des pays tels que il y a des pays de plusieurs continents. Mais ce que nous partageons, ce que nous avons en commun, ce sont les valeurs. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir cette discussion concernant les valeurs de la démocratie, etc. Nous savons qu'ils ont des liens particuliers avec la Turquie et la frontière avec la Turquie. Et la frontière et que les liens économiques, politiques sont forts, que l'Azerbaïdjan entretient des liens avec Ankara, le gouvernement d'Ankara, et ils décident tout ensemble. Et je pense que l'une des raisons pour cela, c'est parce que la Turquie est déjà dans ce groupe. Peut-être qu'ils désirent rejoindre ce groupe également. Mais si j'ai bien compris, et si j'essaie de conclure, ce que serait la recommandation en ce moment concernant le comité directeur est très simple. Tout d'abord, inviter nos collègues à participer à la plénière pour se présenter au mois de mars à Genève. Donc, ils viennent, ils sont invités à se présenter, à faire une présentation concernant leur candidature et à répondre aux questions. Suite à cela, nous allons nommer un groupe avec des membres du groupe des 12+, un groupe qui sera en charge de préparer un rapport concernant la situation en Azerbaïdjan et énumérant toutes les sources d'information, les sources qui peuvent aussi provenir d'autres organisations, des ministères des Affaires étrangères des autres pays, de l'Union européenne. Par exemple, ils ont aussi un rapport concernant la situation de l'Azerbaïdjan. Et ce rapport sera présent. Sera là, présenté lors du comité directeur à Funchal, à Madère, en septembre prochain. Et suite à cela, le comité directeur se prononcera, prendra une décision et présentera cela lors de la plénière en octobre. Est-ce que c'est bien comme cela, Robert?
Dans les normes du fonctionnement de l'UIP et du groupe, les 12 plus, le comité directeur des 12 plus fera une recommandation, oui. Ne pas décider.
Oui, oui, recommandation.
Il fera une recommandation à l'Assemblée des 12 plus qui se réunira après à Genève.
Oui.
Je crois qu'il faut,
oui, oui, peut-être
faut garder le. Voilà. On fait une recommandation. C'est-à-dire, on se prononcera pour faire une recommandation positive ou négative, mais c'est la recommandation qui sera soumise.
OK, may we conclude this?
Est-ce qu'on peut conclure alors? Merci beaucoup. Y a-t-il des commentaires par rapport à la présidence des 12 plus? Y a-t-il d'autres sujets à soulever? La prochaine réunion du comité directeur aura lieu en septembre. J'essaie de voir le 17 septembre, 17, à Madère, dans la ville de Funchal. Est-ce que ça vous va? D'accord, alors on va préparer un programme spécial pour Madère. Merci. On va passer maintenant aux questions liées à l'UIP, le point 9. Préparation du comité directeur. Tout d'abord, question liée donc aux membres de l'UIP et la situation de certains parlements. Nous n'avons pas de documents concernant cette question. Nous avons demandé à nos collègues du comité exécutif s'ils avaient des informations spéciales qu'ils désiraient transmettre ou partager avec nous. 9.1, parce que nous n'avons rien reçu en termes de documents de la part de l'UIP. Allez-y, oui.
On n'a pas encore reçu, on a reçu seulement des mails qui nous disent qu'on va nous envoyer, qu'on est en train de finaliser, qu'on est en train de c'est ça à peu près, qu'on est en train de préparer, que ce soit parfait, etc. Donc, on attend et on aura des trucs. Mais moi, je peux peut-être vous informer de d'une ou deux choses. En tant que... mais peut-être il y a une question sur les finances après. Non, je pense qu'on peut en parler maintenant. Sur la situation financière de l'UIP, en tant que président du sous-comité des finances, et on a des membres, bien sûr, de ce comité des finances, je viens de recevoir le premier rapport des auditeurs fédéraux. Parce que vous savez que nous avons deux sortes d'auditeurs, il y en a même trois, parce qu'il y en a aussi pour le fonds de la Fondation. Les comités fédéraux suisses font tous les ans, vous le savez, un rapport sur le budget de l'année précédente. Alors ce sont des gens très... j'allais dire très suisse, c'est un compliment, Margaret. Hein. Pour un Français, c'est un compliment, tu sais bien. Très suisse, c'est-à-dire très précis, très actuel, précis, etc. Et ce rapport, ben, il est conforme à ce qu'ils étaient les rapports précédents. C'est-à-dire que la situation financière est considérée comme juste, conforme aux règles de l'IPSAS. Vous savez que ce sont ces règles qui sont utilisées sur le plan international, des administrations internationales. Donc le règlement financier tient compte de l'article 13 des statuts, donc le règlement financier est en ordre. Les finances de l'UIP sont en bon état, si je puis dire, puisqu'on a eu des recettes un peu plus élevées, mais ça parce qu'il y a de nouveaux membres, donc les recettes ont suivi. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que il nous explique tout en détail, bien sûr, et il nous explique que le fonctionnement de l'organisation est lié à des normes internationales qu'il faut respecter, que l'UIP respecte, et que les dépenses de l'UIP ont légèrement augmenté, elles ont diminué, pas légèrement, 4% à peu près, parce qu'on a fait des économies un peu partout. Mais il y a des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent parce qu'il y a des choses qu'on a financées et qui étaient à financer dans le programme. Donc on utilise ça dans le programme. Pour ce qui est de l'immobilisation des fonds, ça reste à peu près la même chose. On n'a pas de débit par rapport à 2016, donc on a 340 000 francs suisses de dépenses, mais on a des recettes de 300 et quelques mille francs suisses, dont ça compense à peu près, et on n'a pas de déficit. Il n'y a pas de vrai déficit actuellement à l'UIP. Alors, ils ont bien sûr vu tout le monde à l'UIP, c'est-à-dire les directeurs financiers, son adjointe, etc., etc. Ils ont vérifié tous les comptes, c'est très pointu et très précis dans le truc. Alors, il y a un paragraphe qui est intéressant, et ça nous précise un peu. Le secrétaire général porte la responsabilité des finances de l'UIP. Il est responsable de la préparation, de la présentation d'un état financier fidèle à la réalité, conformément aux normes IPSAS, hein, ce sont ces normes internationales, IPSAS 25, qui va être changé au 1er janvier 2019 en IPSAS 40, qui est encore plus contraignant, un peu comme les normes suédoises en ce qui concerne le matériel et autres. Si vous voulez, il ne doit pas y avoir d'anomalie, il ne doit pas y avoir de chiffres faux, significatifs, en tout cas il peut y avoir des petites erreurs, mais ça fait partie des erreurs qu'on peut corriger. La responsabilité des auditeurs, c'est de préciser est-ce que les finances sont en bon état, est-ce que ça fonctionne bien, et de rajouter pourquoi et qui est responsable. Et donc ils nous disent que c'est le secrétaire général, on savait qu'il était responsable, mais là il le précise, secrétaire général et responsable de la préparation de la présentation fidèle des États financiers, conformément aux normes internationales, pour permettre la préparation des États exempts d'anomalies significatives. Donc, il vérifie en fonction de ça, et il incombe au secrétaire général de surveiller le processus d'information financière de l'Union. Donc le secrétaire général doit nous donner, et il le fait, il nous donne au comité, nous donne les informations en ce qui concerne. Et c'est pour ça, mes chers collègues, que nous avons demandé, j'ai envoyé aux membres du comité exécutif qui sont membres du comité des finances, un mot en disant, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on demande au secrétaire général de nous faire un état des dépenses qu'impliquerait tel projet, etc. Alors, on n'a pas encore le détail, on va le recevoir, ils sont en préparation, ils y travaillent, mais ça prend du temps d'afficher tous les chiffres et de présenter tout cela. Donc voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne les finances. Pour l'instant, ça va. Vous savez que, je rappelle à ceux qui sont nouveaux, que nous avons décidé d'une augmentation des contributions, pas volontaires, mais de nos contributions obligatoires, au budget obligatoire, donc, de 3% lors de la dernière décision l'année dernière, mais à une condition que ce budget, que ces contributions plutôt, soient bloquées jusqu'en 2020. C'était la condition pour laquelle les pays membres, enfin les parlements membres, acceptaient l'augmentation. Ils voulaient bien augmenter à condition qu'on ne refasse pas ça tous les ans. Et ça pose un problème aujourd'hui. On le voit dans le temps, dans l'actualité. Ça pose un problème, c'est que si on veut des dépenses, il faut trouver des économies quelque part. Et ça, c'est à voir après à nous de décider dans le programme qui nous est présenté. Il y a des points très intéressants qu'on peut peut-être répondre financièrement. Et donc le comité des finances va étudier tout cela et puis vous informera bien sûr de nos recommandations et puis vous déciderez ce que vous voulez faire. Voilà, Président. C'était un peu long, mais c'était pour vous expliquer que les choses sont en cours et en train. Et l'information que j'ai reçue là hier et ce matin nous montre le rapport des auditeurs du comité des finances. Les auditeurs fédéraux suisses, je parle, qui ont été décidés par l'UIP et qui sont des gens, des professionnels du contrôle des finances, et on leur fait confiance. Voilà.
Thank Merci. You. Merci beaucoup.
Thank you very much.
Internal auditor, Christer.
Oui, alors, auditeur interne, c'est Christer.
Pour 2017, please.
Yes, Chair.
Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas de rapport parce que je n'ai pas reçu les chiffres de la part du secrétariat. C'était censé m'être envoyé la semaine dernière, mais j'ai entendu dire que c'est seulement en français et mon français n'est pas terrible. Alors, ils étaient censés de l'envoyer aussi en anglais. Mais il y avait une mauvaise traduction, donc le secrétariat l'a repris et je crois que je l'ai reçu soit aujourd'hui en principe ou demain, mais je ne l'ai pas encore vu. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai entendu dire que ça semble être bien, mais je n'en serai pas sûre jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Merci. Il s'agit donc des résultats de l'année 2017. En ce qui concerne le financement, est-ce que vous désirez vous exprimer là-dessus? Le financement volontaire.
Pour le financement volontaire, de mémoire, ils ont eu le chiffre de 2 800 000 francs suisses, qui est conforme, non pas aux prévisions, parce que vous savez que les contributions volontaires sont annoncées, et puis après, les donateurs mettent des conditions. C'est pour un an ou pour deux ans, etc. Donc c'était légèrement inférieur à ce qui avait été annoncé au départ. Mais lorsque le secrétaire général annonce les contributions volontaires lors de la réunion de l'UIP, il nous dit toujours c'est un engagement des contributions volontaires qui se fera dans l'année, sur les deux ans, etc. Donc c'est pas un chiffre exact. Pour les auditeurs, c'est 2 800 000 qui ont été... 2 800 000, oui, qui ont été donnés pour l'année 2017. Voilà. mais selon lui, dans les normes et fonctionnement normal. Alors il y a une question qu'on va explorer, c'est la fondation pour, pas l'innovation politique, mais quelque chose comme ça, c'est une fondation qui avait été créée pour un petit budget, je crois que c'est 22 000 francs, qui avait été donné à cette fondation. Et donc, mais c'est une fondation qui avait été créée un jour pour... je me souviens plus d'ailleurs la raison pour laquelle ça a été fait, mais c'était pour un financement très précis de quelque chose ponctuel. Alors on avait versé 25 000 francs ou 30 000 francs, je ne me rappelle plus très bien. Il reste 20 000 francs qui sont sur cette fondation. Ce n'est pas utilisé, on pourrait revenir là-dessus et demander à l'utiliser pour quelque chose. Mais ça, ce n'est pas les auditeurs fédéraux. Ce n'est pas l'auditeur interne, c'est un troisième auditeur qui est chargé de ça. Bon, un auditeur pour 20 000 francs, ça va pas très loin. À force de payer l'auditeur, les 20 000 francs, il n'y en aura plus. Quoi. Voilà. Donc, mais on pourra peut-être questionner le secrétaire général. Moi, j'ai l'intention, au comité des finances, de questionner le secrétaire général. Qu'en est-il de ces 20 000 francs? Où sont-ils et à quoi servent-ils? Voilà. Mais ce n'est pas une somme énorme, donc il n'y a pas de malversation ou quoi que ce soit. Hein. C'est uniquement pour avoir des éclaircissements. À quoi servent ces 20 000 francs? Où ils sont et pourquoi? Voilà.
Thank you.
Merci. Eh bien, pour commencer, en ce qui concerne le point 1, donc SID paye environ 40% du financement volontaire. Et ils ont commencé à le faire, et j'aimerais expliquer. Ils ont commencé à faire cela en 2006. Ensuite, ils ont payé 60 000. En 2010, 600 000. Et aujourd'hui, c'est 1,3 million. J'espère que nous pourrons augmenter ce chiffre, et je crois que vous serez en mesure de le faire aussi, parce que ce qu'on a fait, c'était d'aller les voir et voir comment est-ce qu'ils dépensaient leur argent, comment est-ce qu'ils utilisaient leur argent. Et on leur a demandé de l'envoyer directement à l'UIP. J'espère qu'on pourra le faire, et même davantage pour les trois prochaines années, parce que cette fois-ci, nous l'avons prolongé seulement pour une année. La raison, c'est que nous voulions faire en sorte que le système soit plus transparent au sein de l'UIP quant à l'utilisation de l'argent. Et donc, on espère que cela se terminera en mai ou juin de cette année. Après cela, il y aura une nouvelle discussion. Mais cela a à voir aussi avec la stratégie, et j'y reviendrai lorsque on discutera des amendements au nouveau statut, parce que c'est crucial. Président, merci. J'aimerais rebondir sur ces commentaires. Donc, au point 9.2, on a 9.1, 9.2. Il y a la liste des programmes, des financements institutionnels et les partenariats. Je crois que c'est ça qu'on appelle financement volontaire. Ce sont les financements des programmes problématiques. La Suède donne seulement des fonds pour la stratégie, pas pour les programmes. D'accord, donc je suis corrigé. Le Canada donne 1,5 million à donner cette année et l'an prochain pour les programmes de partenariat concernant le genre. Ce programme ne sera pas renouvelé sans davantage de transparence. J'ai demandé à plusieurs reprises pour des mises à jour. On y travaille. Mais je voulais demander quelque chose à Robert, si c'est possible, concernant cette liste. Et c'est quelque chose qui a été soulevé avec Margaret, moi-même. Vous étiez là, Duarte aussi, à Genève. Il y a quelques semaines ou peut-être un mois. Cette liste semble ne pas être complète. Il n'y a pas, par exemple, le premier financement des Émirats arabes unis concernant l'antiterrorisme qui pourrait être à hauteur de 2 millions de dollars américains. Je ne sais pas ce que cela veut dire en francs suisses. Et je me demandais aussi d'un point de vue de transparence, mais aussi d'un point de vue de compréhension. L'une des idées que j'ai soulevées à Genève, je ne sais pas quel est votre ressenti là-dessus, lorsque vous présentez à l'UIP et que l'UIP présente ses livres, et lorsque l'UIP continue à croître et essaie d'obtenir d'autres sources de financement à partir d'autres sources, qu'il s'agisse des États membres, des fondations ou d'autres sources de financement, je crois que c'est là-dessus que l'UIP devrait focaliser d'ailleurs, on peut se battre sur cette petite tarte ou essayer d'obtenir une plus grosse tarte. Et l'une des choses que l'on n'a pas, et c'est quelque chose que j'ai soulevé aussi avec le secrétariat général, combien d'argent est-ce que obtient l'UIP au sein de chaque État membre de l'UIP? Combien d'argent est-ce qu'on reçoit? On fait tous des contributions à l'UIP, mais à la maison, au Canada, en France et dans tous les États membres, on dépense des centaines de milliers de francs suisses et on ne tient pas compte de cela, on ne suit pas cela, ces dépenses. Et donc, les impacts financiers doivent nous être transmis. C'est important parce que les bailleurs de fonds essaieront de voir notre habilité à trouver des fonds. Et pour chaque franc suisse, vous allez en obtenir 3. Mais prouvez-le. Et 15 ou 16 000 francs suisses pour le siège de l'UIP, ce n'est pas le budget total. Je ne sais pas ce que dépense le Royaume-Uni à l'interne, mais ça doit être 100 000 de francs suisses par année ou plus. Le Canada dépense 200-300 000 dollars canadiens, peut-être 150 000 francs suisses à l'interne sur des activités liées à l'UIP, des questions liées à l'UIP. Recevoir les jeunes parlementaires, par exemple, le Parlement portugais, la Chambre des communes a dépensé 1,5 dollars canadiens pour les jeunes parlementaires, pour cet événement concernant les jeunes parlementaires. Et cela, en fait, n'est enregistré nulle part. Il serait donc bien d'avoir des comptes complètes afin que l'on puisse renvoyer à l'équipe et dire, voilà, je crois qu'il serait bien de refléter nos propres contextes domestiques ou national.
C'est très intéressant ce que dit David, mais ça... C'est difficile pour l'UIP de faire un état des dépenses de tous les pays, parce que lorsque un pays organise une réunion sous l'égide de l'UIP, mais locale ou régionale ou même nationale, très difficile de savoir qui a dépensé quoi et pour qui. Dans le cas de réunions où l'UIP est partie prenante, comme les jeunes par exemple, très bien, on sait par exemple qu'à Moscou, les conférences... Les grandes assemblées de l'UIP coûtent très cher. Je crois à Moscou, c'est entre 5 et 6 millions de francs suisses que les Russes ont dépensés. Mais là, c'est très difficile parce que c'est des dépenses... Alors, je n'accuse personne ni aucun pays, mais c'est des dépenses qui sont aussi quelquefois pour mettre en valeur le pays. Vous avez dépensé au Québec une somme incroyable pour une conférence extraordinaire au Québec où on avait... tous beaucoup apprécié l'engagement du Québec après plusieurs années de tentatives d'organisation, et ça a été vraiment... C'est une dépense très élevée. Alors, est-ce que l'UIP peut comptabiliser tout ça? C'est en fonction de ce que le pays va dire qu'il a dépensé. Parce que l'UIP n'a pas de contrôle là-dessus. L'UIP, lorsqu'il y a une conférence, c'est le pays qui paie, et l'UIP demande à avoir une somme pour le remboursement de ce que ça coûte en plus à l'UIP, une conférence. Donc c'est à peu près 150 000 francs, je crois, pour les déplacements, des coûts supérieurs à ce qui est prévu. Donc là, moi, on veut bien demander à l'UIP de faire un état, mais il va falloir que les pays eux-mêmes, les parlements eux-mêmes, informent de toutes les activités qu'ils mènent dans le cadre de l'UIP, ou au nom de l'UIP, ou pour l'UIP, ou pour le travail d'information de l'UIP. On peut le faire, mais ça va être un peu difficile, mais on peut le demander, bien sûr. On peut le demander. Ça, c'est, et ça sera intéressant de voir ce que ça coûte au total, bien sûr. Mais si on veut aller plus loin, on peut aussi faire un état des dépenses que nous avons les parlements pour suivre les travaux de l'UIP. Pour venir ici, par exemple, à Lisbonne, il faut payer notre avion, il faut payer l'hôtel, etc. Donc, ce sont des dépenses. Alors, c'est pas directement pour l'UIP, mais quand même, c'est pour un travail qui sert à l'UIP. Donc, ça va être très compliqué de faire tout ça, mais c'est faisable, mais on peut le faire. En revanche, là où je suis d'accord, plus d'accord, c'est pour les contributions volontaires et l'utilisation des contributions volontaires. Et là, il faut avoir la transparence totale. Merci.
Donc, Virgil Macedo est l'arbitre interne pour cette année, pas pour 2017, mais pour 2018. Et il est allé à Genève pour contacter les employés de l'UIP et pour essayer d'en savoir plus concernant les chiffres, concernant l'exécution du budget de cette année courante. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Merci, Président. J'aimerais dire que j'ai fait l'audit interne pour 2018. J'ai eu la première réunion à Genève et cette réunion de Genève s'est déroulée dans une atmosphère positive et de coopération. Mais je veux partager avec vous certaines impressions que j'ai eues lors de cette réunion. Tout d'abord, j'ai vu l'UIP comme ayant un fonctionnement rigide, extrêmement rigide. Par exemple, en mars et en octobre, lorsqu'on a eu l'assemblée, tous les employés de l'UIP sont allés à l'assemblée, y compris les 4 employés de New York. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'UIP doit recruter une personne pour répondre aux appels à Genève. L'UIP doit recruter une personne pour effectuer la liste des participants à l'assemblée. Je crois que les membres de l'UIP et les employés de l'UIP, je crois que c'est très rigide. Ils n'ont pas des fonctions flexibles qui leur permettent de faire d'autres activités. Et ça, c'est très important d'après moi. Un autre exemple. Par exemple, vous savez que le coût de l'interprétation et de la traduction, c'est un coût très important pour l'UIP. Jusqu'à maintenant, l'UIP a donné la préférence à préférer contrater ses services à Genève sans avoir consulté les prix sur le marché. C'est d'autant plus étrange lorsque l'Assemblée se produit à l'extérieur de Genève, avec tous les coûts afférents, parce que dans ce cas-ci, 40 interprètes et 20 traducteurs qui vont à l'extérieur de Genève, qui voyagent à l'extérieur pour effectuer ce travail, un travail qui pourrait être recruté au niveau local. Je me suis rendu compte aussi de ce fait. Donc, je crois qu'il faut avoir davantage d'informations. J'aimerais avoir davantage d'informations concernant ce type de service, ce type de pratique. Je pense qu'on doit examiner ces coûts de façon prudente parce que on fait cela parce que c'est l'habitude. Il n'y a pas toujours une tâche proactive, faire les choses différemment, faire les choses mieux. Donc évidemment, ce sont quelques impressions que j'ai eues suite à ma première réunion. Évidemment, lors de la prochaine réunion, peut-être qu'après avoir reçu des informations additionnelles, j'aurai une idée plus complète concernant ce sujet. Merci Virgile. Je ne sais pas comment cela fonctionne au sein de votre Parlement. Mais par exemple, ici, on doit inviter, si le montant est trop élevé, s'il s'agit d'un concours public, un appel d'offres public, tout le monde peut y participer. Si c'est petit, on doit inviter 2, 3 ou 5 entreprises pour soumettre un budget, soumettre une offre, et on va donc contacter l'offre correspondant au budget le moins élevé. Lui, l'UIP fait cela. L'UIP, effectue un contrat directement. Et c'est pour cela que nous pensons que certaines règles doivent changer, parce que si vous recrutez directement, vous allez recruter quelqu'un en qui vous avez confiance, vous allez signer un contrat avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qui fera un bon travail, peut-être un ami, mais les coûts sont peut-être plus élevés que si je procède d'une autre manière, parce que nous n'avons pas la possibilité d'inviter différents entreprises à soumettre leur offre pour ce travail ou cette tâche en particulier. Pour nous, dans ce Parlement, c'est énormément. Si vous achetez de l'eau, du café ou autre chose, des billets d'avion, si nous voyageons quelque part, si nous allons à Genève, nous allons demander trois différentes agences pour nous donner des prix, des billets aériens, de billets d'avion, et nous allons faire affaire avec le meilleur prix. Nous n'allons pas faire un contrat direct. C'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi l'UIP ne le fait pas systématiquement de la même manière. Bon, mais ça doit être différent. Christophe, allez-y. Je pense que la raison est ouverte. Nous suivons les règles de l'Union européenne lorsque on effectue les tâches au sein de nos parlements. Donc, il y a une loi en ce qui concerne la compétition, la concurrence. Et d'après moi, lorsque j'étais à Exco, il y avait un concours. Lorsqu'il a fallu rédiger le contrat, j'espère que cela va fonctionner de la même manière, que cela fonctionne de la même manière aujourd'hui, c'est-à-dire que l'UIP contacte plusieurs entreprises et demande des prix, des propositions, de prix, parce que bien sûr, ça c'est le boulot de Excom. Il faut leur demander comment est-ce que ce service est fourni. Est-ce que c'est le meilleur prix? Bien sûr, on sait que le moins cher n'est pas toujours le mieux, mais est-ce que c'est le meilleur service pour le budget en question? David, président, quelles sont les règles? Est-ce qu'on les connaît déjà? Parce que chacun de nos pays ont des règles différentes. Il y a des règles selon l'EFTA, il y a d'autres règles. NAFTA, il y a des règles selon l'Union européenne. J'ai lu un document préparé par un des contracteurs qui avait gagné l'appel d'offres pour une demande d'offres. Donc, président, ce qui serait bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et n'y a-t-il pas de normes maintenant au sein de l'UIP? N'y a-t-il pas de propositions? N'y a-t-il pas de demandes pour des propositions? S'il y a un contrat sous 26 000 francs suisses, est-ce qu'ils ne sont-ils pas soumis à des appels d'offres? Quelles sont les règles? Je crois que c'est assez difficile à justifier s'il n'y a pas de règles. Peut-être qu'on pourrait écrire une lettre et demander au secrétariat général de nous donner par écrit les règles financières qui existent. Et s'il n'y en a pas, eh bien, ils doivent nous le dire. Peut-être que on va en créer, exactement. Et donc, tout à fait. On peut examiner ce point et dire, eh bien, vous êtes une organisation de 15 millions de francs suisses. Vous nous demandez de payer des contributions de plus en plus élevées. Et bien sûr, on nous demande où va l'argent. Donc, peut-être qu'on pourrait écrire une lettre et demander au secrétariat général de nous donner une explication comment fonctionnent ces contrats. Je crois que ce serait un bon début. Et lors du prochain comité exécutif, plusieurs membres de l'UIP pourront dire oui, nous avons écrit une lettre, et le groupe des 12 plus attend une réponse.
Oui, non, on peut demander, d'abord le comité des finances peut demander les explications sur le fonctionnement des attributions des contrats. Comment fonctionne l'attribution d'un contrat en ce qui concerne les traductions, mais aussi en ce qui concerne peut-être les voyages, aussi en ce qui concerne les grandes dépenses, si vous voulez, au sein de l'UIP, les grandes charges qui existent, puisque ça fait partie du poids lourd. Les chiffres du budget qui a été auditionné par les conseils fédéraux. Si je regarde, par exemple, le personnel, parce que Christian nous disait qu'on n'avait pas les chiffres, moi j'ai reçu des chiffres. En 2017, 7 940 000 francs suisses ont été dépensés pour le personnel permanent. En 2016, c'était 8 342 000, dont on a dépensé 411 000 francs suisses de moins. Alors pourquoi, les auditeurs expliquent, il y a un personnel, une personne qui coûtait cher, un P5, dans le cadre de l'ONU c'était un P5, qui n'a pas été remplacé pendant une année, donc la dépense en moins. Voilà, on a eu des opérations comme cela qui ont fait qu'on a économisé 400 000 francs suisses. Alors est-ce que ça a de l'influence sur le travail de l'UIP? Je ne sais pas, mais c'est possible. Mais ensuite, on a un personnel temporaire qu'on emploie, et là-dedans, il y a aussi les interprètes, bien sûr. Là, on a dépensé, mais pas seulement pour les interprètes, hein, pour tout le personnel temporaire, 2 617 000. Et on avait 2 792 000 l'année précédente, en 2016. Donc là, c'est une économie de 6,6%, c'est-à-dire 174 000 francs suisses de moins. Vous voyez, les variations entre les années sont importantes quand même. Et voilà. Alors la caisse de pension fermée, vous savez, c'est une caisse spéciale pour quelques employés qui ne sont pas allés dans la caisse de l'ONU. Là, on a fait quelques économies. Mais pas tellement, mais quand même, parce qu'on a eu des recettes, des investissements. Une caisse de retraite a des investissements qui rapportent de l'argent, bien sûr, à la caisse, hein, pas à l'UIP. Donc là, on a compensé. Alors, les dépenses de voyage, peut-être ça vous intéresse, monsieur le secrétaire général, les dépenses de voyage en 2016 étaient de 1 million 13 000 francs suisses. Je passe les petits chiffres après. Hein. 1 million 13 000 francs suisses. Et en 2017, c'était 1 million 53 000 francs suisses. Donc, c'est une légère augmentation de 4% à peu près, 3,7 de dépenses de voyage. Ça, c'était pour l'année 2017, donc. Bon, les charges contractuelles, les charges d'exploitation, c'est des sommes de 600 000 à peu près chaque fois, amortissement et ça. Mais alors, dans les diverses autres charges, et là, le comité des finances va poser des questions, bien sûr, parce que je vois que dans les divers autres charges, on avait dépensé en 2016 188 000 francs suisses. Et en 2017, on a dépensé 378 000 francs suisses. Là, il y a une augmentation très sensible et on a augmenté de 50% là, les dépenses diverses. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais qu'est-ce qui rentre là-dedans? C'est 50% de plus que 2016. Là, il faut une explication qu'on en va demander, bien sûr, parce que ça fait quand même presque 200 000 francs suisses de plus. Alors, ces 200 000 francs suisses ont été utilisés à quoi? On va poser la question, bien sûr, et on aura la réponse dont nous vous informerons. Voilà, je voulais vous donner ces chiffres-là qui sont plus précis que ce que je disais tout à l'heure. Voilà, et il va les avoir en anglais, peut-être dans une heure ou deux. Et donc, mais ce seront les mêmes, parce que les chiffres ne changent pas en anglais et en français, heureusement. C'est plus facile pour les interprètes.
Thank you.
Merci. Cette information est très importante. Christa, oui, je voulais juste faire un commentaire concernant lorsqu'on a eu nos grandes réunions à l'extérieur de Genève. Vous aviez dit que c'était des coûts élevés. Oui, c'est vrai, mais pas pour l'UIP. La décision... Du moins, cela a toujours été le cas par le passé. Si un pays veut organiser une réunion, ils sont censés payer tous les coûts extra. Tout ce qui coûte plus que ce que c'était à Genève, que si ce serait la réunion organisée à Genève. Donc, si vous envoyez 100 personnes, eh bien, ce sont des coûts qui devront être amortis par le pays hôte et non pas par l'UIP. Ce n'est pas une défense du système, mais c'était juste à titre de clarification pour savoir par qui seront payés ces coûts. Oui, c'est vrai, c'est le pays qui accueille, mais ils n'ont pas la liberté de recruter les services dans leur propre pays pour économiser de l'argent. Si, par exemple, on organise une réunion au Canada, il y a des très bons interprètes au Canada. Pourquoi est-ce que le Canada devrait payer pour des interprètes qui viennent de Genève? Pourquoi? Je pense que il y a quelqu'un pour qui ce business profite. Oui, je ne connais pas les lois concernant les fondations suisses, mais il y a des principes de comptabilité généralement acceptés partout à travers le monde. Donc si vous travaillez par exemple pour PricewaterhouseCoopers, dans l'un de leurs centres à Paris, ou si vous travaillez pour Accenture à Rio, il y a des procédés de comptabilité qui transcendent tous les pays, toutes les règles des pays. Ce que je ne sais pas, s'il existe, qui existe ou qui n'existe pas à Genève, quelles sont les règles concernant les appels d'offres, l'achat, pardon. Comment est-ce que vous achetez ces services? Quelles sont les contributions gouvernementales? Ce sont des règles parfois très strictes. Il faut une proposition, il faut des qualifications. On ne veut pas que cela soit trop onéreux pour l'UIP, mais ce serait bien de savoir s'ils sont en conformité avec le droit suisse ou est-ce qu'ils suivent la pratique d'autres organisations. Par exemple, vous ne pouvez pas faire avec un institut en Corée, par exemple, il y a donc une décision qui obtiendra ce contrat basé sur des critères. La même chose pour les billets d'avion. Au Canada, on va sur le marché et on dit si vous voulez, par exemple, si vous voulez prendre en charge les voyages, organiser les voyages des parlementaires, voilà la date limite, il faut soumettre son offre. Par exemple, Air Canada gagne 25 ou 35% de ses appels d'offres. C'est un contrat énorme. Donc je ne sais pas quelles sont les règles dans d'autres pays ou sous le droit suisse, mais c'est assez facile à trouver en écrivant une lettre. Robert, peut-être Chris et Virgilio, vous pouvez peut-être préparer une telle lettre parce que vous avez été l'auditeur donc 2017 et 2018 aussi. Et John, vous pouvez échanger quelques emails et préparer une telle lettre avec ces questions, si vous êtes d'accord. Robert, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
One word. Les auditeurs fédéraux nous expliquent dans le rapport que la comptabilité de l'UIP fonctionne selon les normes internationales du secteur public international. Donc c'est IPSAS 25, puis ce sera IPSAS 40 qui seront plus précises. Dans ce cadre-là, l'UIP respecte absolument ces normes-là. Mais est-ce que ces normes-là, et ça je ne le sais pas, je ne suis pas un spécialiste, est-ce que ces normes-là comportent aussi les appels d'offres pour les voyages, pour les trucs, je ne sais pas. Donc la question va être simple, est-ce que IPSAS comporte ça? Si les auditeurs fédéraux nous disent non, ou s'ils nous disent oui, ok. Et à ce moment-là, on demande à l'UIP les preuves de ça. On fonctionnera comme ça. Voilà. Donc on saura et on fera une lettre pour demander. Ok.
Non plus parce que, mais deux choses. Est-ce qu'il ne serait pas pragmatique d'inviter Monsieur le Secrétaire Général à apparaître chez nous à Genève et de nous expliquer, bien sûr, preuve à l'appui, de nous expliquer en 10 minutes quelle est la pratique actuelle?
10 minutes, c'est pas assez.
10 minutes, c'est passé, d'accord. D'autre part, là-dessus, je connais bien évidemment la pratique suisse ou à Genève. C'est pour les interprètes, Je parle que pour les interprètes. Pour les interprètes, c'est clair que Genève, disposant d'un nombre impressionnant de sièges d'organisations internationales, c'est des tarifs standards. Et si syndicats, c'est des tarifs syndiqués. Moi, j'étais moi-même traductrice en ma première profession. Je ne suis pas interprète, j'ai jamais travaillé dans cette profession, mais c'est des tarifs syndiqués. Par contre, ce que j'ai déjà dit, si au printemps prochain, nous tiendrons l'Assemblée à Buenos Aires, moi, je me répète, j'ai aucune réserve à ce que l'Argentine recrute des interprètes sur place. Simplement, il faut que ce soit de qualité, mais c'est possible, bien sûr.
I agree on that. So we...
Je suis d'accord avec ceci. Donc, on peut rédiger cette lettre, l'envoyer rapidement, attendre une réponse. Si on n'aime pas la réponse, on invitera le secrétaire général à participer à la réunion et à s'expliquer. Si la réponse est claire, on n'a pas besoin d'inviter le secrétaire général. Êtes-vous d'accord?
Robert?
On aura peut-être la réponse déjà dans ce que nous avons demandé au nom du Comité des finances, on a déjà demandé des explications. Alors peut-être qu'il y aura déjà la réponse là-dedans. On verra.
Ok. Attends.
Ben, tant mieux. Chris et Virgilio vont donc préparer la lettre et on l'enverra. Au comité exécutif et au secrétariat général, en leur posant nos questions. Alors, avant de passer au point 9.3, les amendements, on va prendre la pause café, 10 minutes, parce que je pense que ce sera une longue discussion. Donc, on a des salles de bain ici, à côté. Et on ira aussi tous ensemble à la plénière pour prendre une photo de groupe. Ils nous attendent déjà. Donc, il est 11h. C'est le temps de préparer aussi la plénière et de prendre la photo de groupe. Alors, 5 minutes, pause de 5 minutes avant la photo, d'accord ?
Thank you.